Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Dominique Ory, 1907-1998. Aujourd'hui, festival Mauvais Genre oblige, Une vie, une œuvre cultive secrètement l'impudeur, vous entraînant une laisse autour du cou à la rencontre d'une femme dangereuse, l'écrivain Dominique Ory, aussi connu de la police et des lecteurs sous le pseudonyme de Pauline Réage, auteur de la brûlante Histoire d'eau. Eau, un récit aussi pur dans sa facture qu'impur dans son propos, une histoire d'amour absolue et même absolutiste, signée par une femme libre tentée par l'esclavage. Préparez-vous donc au fouet, à la fessée et bientôt au fer rouge dans un décor où scintille l'émeraude de la cantharide et la boucle de ceinture d'adepte des chemises brunes. Le tout dissimulé derrière le paravent couleur crème et insoupçonnable de la NRF. Dominique Ory, un documentaire de Christine Le Cerf et Christine Diger.
Vous vous souvenez de ce petit livre à couverture jaune ?
La couverture jaune, j'ai toujours. Je l'avais acheté pendant mon service militaire à Oran. Bon, c'était un livre qui était un peu secret quand même, parce que ce libraire à Oran le mettait en vitrine, mais à Paris, il devait y avoir des libraires qui n'osaient pas le mettre en vitrine, et peut-être même sur leur table. Il y a des libraires qui refusaient de vendre Histoire d'eau parce que je ne veux pas vendre cette saloperie. Incapable de voir que c'était de la littérature. Mmh. Il pensait que c'était juste de la cochonnerie. Mmh. Alors que c'est de la littérature.
D'une certaine manière, sans comparer les textes ni les situations, le livre de Catherine Millet, La vie sexuelle de Catherine M, est un peu comparable. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui ne peut pas se raccrocher à d'autres textes de Dominique Ory et qui tombe comme une bombe, comme ça, dans le paysage littéraire français. Et qui reste de manière unique dans le paysage littéraire français. Mmh. 54-55, Histoire d'eau. Oui, c'est sûr.
Dominique Ory, Histoire d'eau. Par Christine Le Cerf et Christine Diger.
Ça ne me ressemble pas, qu'ils disent. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Ça ne ressemble pas. Bien évidemment à la vie que j'ai menée, en aucune façon. Et François Mauriac un jour a dit « Les mémoires d'une belle, ni je ne suis une belle, ni ce ne sont des mémoires. » On s'en fout. Il n'a vraiment pas compris. Et les fantasmes des gens, ça a autant de réalité. Enfin non, ça n'a pas autant de réalité. Mais ça a une réalité parfois contradictoire avec leur existence.
Si j'avais eu 20 ans de plus, je lui aurais fait la cour.
Jean-Claude Silberstein.
Je le lui ai dit d'ailleurs. J'arrive à la NRF, il y avait un grand bureau double devant la fenêtre, à gauche Marcel Arlan, à droite Jean Paulhan, et en retrait par rapport à la fenêtre, Dominique Ory, avec une jupe assez courte, qui faisait voir de très jolies jambes, et Arlan et elle, complètement absorbés, en apparence du moins, dans la lecture de manuscrits.
Je crois qu'elle était à la fois très froide,
Angie David,
très réservée, très discrète, toujours en tailleur gris, petite souris qui se glissait dans les couloirs de Gallimard, et en même temps une grande séductrice et une grande intelligence. Donc apparemment, les gens étaient assez frappés quand il la rencontrait, par un regard perçant, donc un contraste entre une séduction intellectuelle et une apparence modeste. On lui donnait le surnom de la nonne des lettres, je crois que ça lui va assez bien.
Catherine Robbe-Grillet, est-ce qu'il y a une scène qui vous reste en mémoire de ce livre? Un détail?
De l'histoire d'eau?
Oui.
Le masque. Le masque de chouette, tout à fait surprenant, et c'est la façon dont elle est, dont elle fait peur.
quand on écrit, on ne ment jamais. Je veux dire, on peut raconter des choses qui ne sont pas vraies, bien sûr. Mais il n'est pas possible de se déguiser quand on écrit. Je crois que ça n'existe pas. On se trahit toujours. Ce qu'on dit, c'est toujours soi-même.
Devant la grande glace où elle se voyait en pied, O essaya chacun des masques. Le plus singulier, et celui qui transformait le plus et lui semblait le plus naturel, était un des masques de la chouette chevêche, sans doute parce qu'il était de plumes fauves et beiges, dont la couleur se fondait avec la couleur de son hâle. La chape de plumes lui cachait presque complètement les épaules, descendant jusqu'à mi-dos et par devant, jusqu'à la naissance des seins.
Est-ce que vous saviez à cette époque-là qui se cachait derrière Pauline Réage ?
Non. On ne savait pas. On pensait que c'était quelqu'un qui était proche de Paulan, évidemment. Mais on ne savait pas et on ne l'a pas su. Je ne sais pas trop quand on l'a su, mais très tard.
Alors un an après la parution d'Histoire d'eau, Catherine Robbe-Grillet, vous publiez, sous pseudonyme, un livre, L'Image. Est-ce que vous partagiez à cette époque-là avec Dominique Horry le goût du secret ?
Plutôt oui. Il y avait le goût du secret et en plus on était passible de poursuites pénales. Elle a eu des problèmes d'ailleurs, il y a eu des problèmes. L'Histoire d'eau a été poursuivie et L'Image aussi. Donc c'est resté effectivement un livre secret.
Ni double, ni brouillon, elle ne gardait rien.
C'est vraiment un principe de vie. La clandestinité, le masque, apparaître sous une autre identité, jouer avec ce trouble. Donc on a au moins trois femmes en une. La première, la vraie, c'est le nom sous lequel elle naît, qui est Anne Desclos. Ensuite, le nom qu'elle se choisit quand elle commence justement à travailler dans l'édition et dans le journalisme, qui est donc Dominique Horry, le nom sous lequel on la connaît. Et ensuite, le pseudonyme qu'elle se choisit pour l'écriture d'Histoire d'eau, qui est Pauline Réage. Et après, on peut décliner, parce qu'on peut peut-être lui rajouter aussi le nom de O. C'est quelqu'un qui considérait qu'on ne pouvait vivre libre que dans le secret.
Mon père était tout à fait pour. Ma mère horrifiée. Comment a-t-elle pu faire un enfant ? Elle détestait ça. Étrange d'avoir une mère comme ça.
She really hated that every kind of contact with that male personification of.
Elle exécrait vraiment tout contact avec l'espèce humaine.
She hated.
Elle abhorrait la chair.
Flesh.
Sa mère était une femme très austère, très froide, certainement complètement hostile aux choses de l'amour et aux choses du sexe, alors que son père était beaucoup plus... Je ne sais pas s'il était libertin, mais en tout cas, c'était un grand séducteur, il aimait les femmes, il aimait bien jouir de l'existence. Et je pense que elle est un bon mélange des deux, c'est-à-dire qu'en apparence, elle a cette froideur maternelle, mais à l'intérieur, ce qu'elle est vraiment, c'est plutôt cette séductrice, cette personne aimant effectivement la vie, chose que son père lui a transmise. Son père est né à Londres. Il était complètement bilingue. Il est devenu agrégé d'anglais. Il était un grand professeur d'anglais, très estimé. Et du coup, il a élevé sa fille dans cette double culture franco-anglaise. Donc Dominique Horry était bilingue, lisait autant en anglais qu'en français, autant d'auteurs anglophones que d'auteurs francophones. Et elle a elle-même donc fait des études universitaires d'anglais pour suivre un petit peu les traces de son père. La bibliothèque de son père est remplie de grande littérature et aussi de littérature libertine. Donc notamment Crébillon, Crébillon fils, la grande littérature libertine du XVIIe et du XVIIIe siècle, les liaisons dangereuses. Et Dominique Horry puise dans ce trésor littéraire pour faire sa propre éducation intellectuelle.
Elle avait fait des études classiques.
Delphaïe de Thon.
Elle venait d'un milieu de droite. Elle a été plus ou moins royaliste. Elle a vécu avec des gens qui étaient de l'Action française.
Sur les tracts distribués, on peut lire « L'heure de la Révolution nationale a sonné ».
Elle sympathise très tôt avec les milieux de l'extrême droite intellectuelle.
Léon Daudet a écrit dans son éditorial de l'Action française « Je peux dire qu'à cette heure-ci, nous tenons Paris. Nous, royalistes, demain, nous tiendrons le pays tout entier. »
Ce sont des gens qui considèrent qu'il faut préserver une certaine idée de la grande littérature française, de la culture française, de la langue française. Et ils en sont les gardiens. Il y a Thierry Meunier, autour de lui, des gens comme Robert Brasillach, comme Claude Roy, avant qu'il ne bascule au Parti communiste. Jean-Pierre Maxence, des gens comme ça.
Le 6 février, les croix de feu du colonel de la Roque se rassemblent en deux points, rive gauche et rive droite, tout près du pont de la Concorde.
Quand elle a été prête et fardée, les paupières légèrement ombrées, la bouche très rouge, la pointe et l'aréole des seins rosis, le bord des lèvres du ventre rougi, du parfum longuement passé sur la fourrure des aisselles et du pubis, dans le sillon entre les cuisses, dans le sillon sous les seins et au creux des paumes. On l'a fait entrer dans une pièce où un miroir à trois faces et un quatrième miroir au mur permettaient de se bien voir. Un homme portait sous sa robe des espèces de choses collantes qui recouvraient les jambes et les cuisses, mais laissaient libre le sexe. Ce fut le sexe que O vit d'abord, à son premier pas, puis le fouet de lanière de cuir passé à la ceinture, puis que l'homme était masqué par une cagoule noire, où un réseau de tulle noire dissimulait même les yeux, et enfin, qu'il avait des gants noirs aussi et de fins chevreaux. Il lui dit de ne pas bouger en la tutoyant.
On voit bien une familiarité quand même d'esprit entre ce qu'on pourrait imaginer être une société secrète fasciste et les rituels qui sont imposés à O dans l'histoire d'O. Le seul homme avec lequel elle aura été mariée, Raymond d'Argila, appartenait lui-même à certaines franges franquistes, proto-franquistes à la fin des années 30. Et très rapidement, elle se rend compte que ça ne marche pas du tout avec son mari. Il est violent, il est un peu déséquilibré. Et elle ne supporte pas bien cette position d'épouse. Elle fait donc un enfant avec lui, mais cette position de mère aussi est une contrainte. Donc rapidement, elle se rend compte qu'il va lui falloir se séparer de cet homme. Elle entreprend une procédure de divorce et parallèlement, elle commence une histoire d'amour, évidemment cachée, avec Thierry Meunier. C'est quelqu'un qui est au début de sa carrière. Un auteur important arrive dans le siège à ce moment-là, c'est Maurice Blanchot. Et ensuite, ils vont créer ensemble, donc Maurice Blanchot et Thierry Meunier, la revue L'Insurgé, qui va être publiée tout au long de l'année 1937. Donc à la fois une histoire d'amour, secrète, intense, et aussi une initiation. Elle commence, disons, à travailler dans le milieu de la critique littéraire et de l'édition. C'est là où elle choisit son pseudonyme de Dominique Horry.
En 1942, en pleine guerre, ne pouvant rien faire, je fréquentais les bibliothèques et je lisais les poètes du XVIe, du XVIIe siècle. C'est merveilleux, les poèmes. Les poèmes, c'est que les gens qui sont croyants doivent réciter des prières à peu près de la même façon que n'importe qui peut réciter un poème. Et je pense que c'est à Jean Paulhan que je dois un point de départ. C'est lui qui a publié le premier recueil que j'ai apporté, qui était un recueil de poésie religieuse française qui allait de Ruth Boeuf à Verlaine.
Jamais sur elle, il n'a posé de questions. Il savait qu'elle était une idée, une fumée, une douleur, la négation d'un destin.
Napoléon, c'est la grande histoire, c'est sûr, hein. C'est son mentor, c'est celui qui va vraiment la faire devenir Dominique Ory. Thierry Monnier lui a mis le pied à l'étrier, mais il l'a quand même gardé, on voit bien, un peu dans l'ombre, puisque quand ils font justement cette anthologie de poésie, alors que celle qui a fait tout le travail, elle apparaît dans certains tirages en collaboratrice, parfois même pas, il s'attribue vraiment tout le mérite. Donc on sent quand même qu'à la fois il l'initie, mais en même temps il la garde un petit peu au second plan. Jean Paulhan, c'est vraiment celui qui va la placer au premier plan.
En 1944, il avait 60 ans. C'était un homme grand, avec des épaules larges, un méridional à teint blanc, à peau blanche, avec des cheveux noirs et des yeux très très clairs, des yeux gris-vert, un peu comme la couleur des huîtres de marraine. C'est vraiment le vert gris qui dominait. Très beaux yeux et un très joli sourire. Il marchait très légèrement, très dansant. Une vieille dame que je connais disait « Oh, c'est l'homme en caoutchouc !» parce qu'il dansait en marchant.
Quand mon grand-père est arrivé dans sa vie, donc Claire Paulhan, on peut dire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ma grand-mère officielle, Germaine, étant très malade, elle avait la maladie de Parkinson, elle était alitée, immobilisée, elle vivait avec nous, mais on peut bien comprendre que Jean Paulhan... Et il a précisé lui-même qu'après tous les dangers qu'il avait courus pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait besoin aussi un petit peu de respirer et de profiter de la vie. Donc il a eu quelques maîtresses, dont Dominique Ory, qui s'est montrée bien plus qu'une maîtresse, parce qu'elle a été la plus patiente, la plus intelligente, celle qui travaillait avec lui. Elle était, je crois, encore en amour avec Thierry Monnier, qui était l'opposé de Jean Paulhan, et elle avait une liaison avec une bibliothécaire qui s'appelait Edith Thomas. Et l'amour pour Jean Paulhan a été suffisamment grand pour qu'elle puisse se libérer de ces deux amours contingentes, peut-être, et se consacrer plus entièrement à Jean Paulhan. Ils ont fait la NRF ensemble, ils ont fait les Cahiers de la Pléiade ensemble, donc deux revues littéraires. Ils travaillent ensemble et en 1947, leur liaison devient, si ce n'est officielle, au moins officieuse, dans le début des années 50, officielle. Et sans que personne n'y trouve à redire, tout ça étant très, non pas de bon ton, c'est, l'histoire d'eau prouve le contraire, mais en tout cas très maîtrisée de part et d'autre. Mais elle a aussi souffert de cette liaison, puisque les cahiers de l'histoire d'eau sont vraiment nés du fait que Jean Paulhan, disait-elle, ne lui accordait pas assez d'attention, n'avait pas assez de temps pour elle. Donc elle s'est mise à écrire ses cahiers, comme on sait, dans son lit, toute seule le soir, etc. Et, mais ça a très très bien marché comme stratagème et comme exercice d'écriture et exercice amoureux. C'était vraiment exactement ce qu'il fallait faire par rapport à mon grand-père.
Elle décide, une nuit, de commencer ce récit érotique. Et elle l'envoie en poste restante à Jean Paulhan, chapitre par chapitre. Donc il y a tout un jeu qui se met en place entre eux. Il vient chercher à la poste ses chapitres. Il arrive avec empressement pour lire la suite et il n'en revient pas. Il est complètement fasciné que sa maîtresse ait pu écrire un texte aussi osé et aussi beau.
La fille écrivait, comme on parle dans le noir, à celui qu'on aime. Lorsque les mots d'amour ont été retenus trop longtemps et ruissellent enfin, pour la première fois de sa vie, écrivait sans hésitation, sans répit, rature ni rejet. Écrivait comme on respire, comme on rêve.
Mais c'est une déclaration d'amour, oui, bien sûr. C'est ce qu'elle a dit, je crois.
Catherine Robbe-Grillet.
Que c'était parce qu'elle n'était pas très sûre d'elle-même, elle ne se trouvait pas jolie, peut-être pas assez brillante, et que c'était une façon de poursuivre la séduction. Pourquoi pas, oui. À la psychologie des profondeurs. Parce qu'elle appuie beaucoup sur les mouvements de l'intellect. C'est même surtout pour moi un livre très intellectuel. Un processus quand même cérébral pour moi.
Une expérience intérieure.
Une expérience intérieure, mais surtout l'aboutissement d'une grande histoire d'amour. Et j'ai l'impression qu'à la fin, elle s'écroule justement parce que tout d'un coup, il n'y a plus l'amour de Sir Stephen qui la soutient et pour lequel elle vit. C'est ça que laisse entendre la fin. Oui, c'est une aventure spirituelle. Avant tout.
Si vous ne sentez pas un extrême dégoût du monde, sortez, ma sœur, de cette clôture.
On avait mis à haut un bandeau sur les yeux. On fit alors lever haut et on allait la détacher. Sans doute pour la lier à quelques poteaux ou quelques murs. Quand quelqu'un protesta qu'il la voulait prendre d'abord et tout de suite. L'un des hommes, la maintenant des deux mains aux hanches, s'enfonça dans son ventre. Il céda la place à un second. Le troisième voulut se frayer un chemin au plus étroit. Et forçant brusquement, la fit hurler. Quand il la lâcha, gémissante et salie de larmes sous son bandeau, elle glissa à terre. Ce fut pour sentir des genoux contre son visage et que sa bouche ne serait pas épargnée. On la laissa enfin, captive à la renverse, dans ses oripeaux rouges devant le feu.
J'ai l'impression d'avoir toujours entendu parler dans ma famille quand j'étais petite de l'histoire d'eau à mots couverts. De toute façon, on baisse le ton parce que les enfants sont là, on en parlera plus tard, on parle en anglais, etc. Et rue des Arènes, où vivaient mon grand-père, mes parents, ma famille, j'ai rapidement découvert qu'il y avait une bibliothèque avec un second rayon dans lequel il y avait tous les livres érotiques et cette histoire d'eau. À force d'entendre ce mot, j'ai regardé ce livre. Je devais avoir 10 ans, 11 ans maximum. Et j'ai d'abord été très très choquée par la violence de ce qui était raconté. Je me suis reprise plusieurs fois et vraiment jamais dans mon enfance j'ai réussi à lire ce livre jusqu'au bout. Et je me demandais pourquoi les adultes en faisaient tellement cas. Et en fait, je me rends compte maintenant, si j'ai réfléchi un petit peu, qu'il fallait être sensible à l'écriture, au style, pouvoir passer outre la violence apparente ou la violence première des faits racontés.
Voici le discours que l'on tint ensuite à haut. Vos mains ne sont pas à vous, ni vos seins, ni tout particulièrement aucun des orifices de votre corps. que nous pouvons fouiller et dans lesquelles nous pouvons nous enfoncer à notre gré. Par manière de signe, pour qu'il vous soit constamment présent à l'esprit ou aussi présent que possible, que vous avez perdu le droit de vous dérober, devant nous vous ne fermerez jamais tout à fait les lèvres, ni ne croiserez les jambes, ni ne serrerez les genoux, ce qui marquera à vos yeux et aux nôtres que votre bouche, votre ventre et vos reins nous sont ouverts.
Lorsqu'on lit un tel récit, on n'est pas bien. Moi, je me souviens, lorsque je l'ai lu, j'ai éprouvé un sentiment de dégoût, mais j'ai voulu comprendre pourquoi j'ai éprouvé un tel sentiment de dégoût. Et je venais de lire Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. C'est pour vous dire, le contraste a été rude.
Alexandra d'Este.
Le sujet traité par Histoire d'eau est un sujet extrême. Le rituel d'accueil est un viol collectif. Lorsque l'héroïne entre dans ce château, le château de Roissy, ce qui marque son entrée dans cet univers-là, c'est un viol collectif. Et on est face à une série de sévices qu'elle accepte afin de prouver son amour à l'être aimé et afin de garder l'attention de l'être aimé. Un peu comme Scheherazade qui raconte une histoire pour maintenir l'attention de l'être auquel elle s'adresse. Et j'ai voulu surtout comprendre pourquoi une femme, une écrivaine, donc, 5 ans après Le deuxième sexe, ose écrire donc un récit d'esclavage volontaire. Pour moi, ça n'allait pas du tout dans le sens de l'époque, dans le sens de l'émancipation féminine. Donc moi, j'ai voulu comprendre pourquoi voilà, une femme avait osé mettre en mots et en images son univers sexuel, mais moins son univers sexuel que l'univers sexuel de son amant, finalement, la fantasmatique de son amant.
Catherine Robbe-Grillet, est-ce que vous avez été choquée, vous qui êtes une prêtresse des grandes cérémonies sadomasochistes, est-ce que vous avez été choquée par certaines scènes d'Histoire d'eau ?
Oui, choquée, parce que c'était choquant quand même qu'on puisse écrire une chose pareille en 1950, c'était choquant. Mais je ne l'ai pas rejetée comme quelque chose que devait pénaliser. Non, sûrement pas. Étant donné le livre suivant qui était... le mien, quoi, l'image, je pouvais difficilement être choquée. C'était tout à fait... C'est dans la même veine.
Admirative.
En réalité, c'est dans la même veine et c'est les mêmes fantasmes. Il y a quand même la soumission, le sang, les épines. Non, il n'y a pas tellement d'épines dans l'histoire d'eau. Le fouet, enfin, il y a quand même toute la panoplie. Les chaînes, bien sûr, les colliers, les laisses. Si vous voulez, le choc, il était plutôt, mon Dieu, quelle audace! Comment peut-on écrire un livre comme ça maintenant? Je trouvais que c'était plutôt très audacieux.
Non, je crois que ce qui était scandaleux, c'était les descriptions de l'acte sexuel. Je crois que c'était ça qui était scandaleux. Par rapport à cette langue classique ou pseudo-classique, elle fait penser à Crébillon, à ces gens-là, à la littérature du XVIIIe siècle.
Delphaï de Thon.
Et elle était plus gazée, la littérature du XVIIIe siècle. Elle laissait plus de place à l'imagination. Là, vraiment, les choses sont décrites assez crûment. Et je pense que le scandale, il est dans la crudité. Il n'était pas dans l'esclavage féminin, parce que l'esclavage féminin, c'était la norme en 1954. C'est-à-dire que la femme soit soumise à l'homme, que la femme soit faite pour le plaisir de l'homme, que tout ce qu'on lui demande, c'est d'être belle, de se parer, d'avoir du temps disponible et de faire ce qu'on lui demande. C'était pas un scandale, c'était les idées communes, la morale commune. Donc le scandale, il venait pas de là du tout. Le scandale, il venait uniquement des descriptions sexuelles. Bon, et alors, décrit le sadisme, le masochisme, comme je crois pas que personne l'avait décrit depuis ça, d'une façon aussi crue, quoi. Si scandale il y avait, il était là.
C'est un style à la fois très pur, très classique, se reportant à cette période 17e, 18e que Dominique Horry aimait beaucoup et sur lequel elle avait travaillé, écrit plusieurs choses, plusieurs livres.
Claire Pollan.
Donc c'est un style très pur, très simple, très limpide pour exprimer des sentiments extrêmement complexes et des situations assez inhumaines. Donc on a à l'intérieur d'un même texte des paradoxes que le lecteur doit admettre, qu'il doit même apprécier pour pouvoir tourner la page suivante.
Qui suis-je enfin ? Dit Pauline Réage. Sinon la part longtemps silencieuse de quelqu'un, la part nocturne et secrète, qui ne s'est jamais publiquement trahie par un acte, par un geste, ni même par un mot, mais communique par les souterrains de l'imaginaire avec des rêves aussi vieux que le monde.
L'histoire d'O, c'est l'histoire d'une femme donc, qui s'appelle O, qui n'a pas de prénom. C'est une sorte, là aussi, de fantasme de femme qui a un amant qui s'appelle René. Et cet amant, un jour, va lui proposer de découvrir un endroit qui s'appelle Roissy, qui est une sorte d'hôtel très mystérieux au fond des bois, où des hommes cagoulés, nus, mais avec des cuissardes, un masque, prépare des femmes à l'esclavage. René va lui proposer donc de devenir son esclave. Il va la préparer pour ça. Il va falloir qu'elle porte certaines tenues. Il va falloir qu'elle se maquille d'une certaine manière. Il y a déjà comme une sorte de domination, de contrainte qui s'impose très vite, même avant d'en arriver au fouet et autres accessoires intéressants. Et il va l'emmener à Roissy, où il va l'abandonner, enfin, où il va la laisser, disons, plusieurs semaines. Dans cet endroit, elle va être là, très clairement, fouettée, sadisée, sodomisée, enfin. Elle accepte tout de suite, c'est très Dominicori, ça, on ne se révolte pas, on suit. Et il va l'emmener ensuite chez un homme, qui s'appelle Sir Stephen, qui est un maître SM, un dominateur. Là encore, O ne se révolte pas et accepte d'être confiée aux soins de Sir Stephen.
Jean Pollan, 1953.
J'ai toujours eu l'impression, je crois au fond, que les gens étaient assez dangereux. Quand j'ai lu le Marquis de Sade, j'ai très bien compris de quoi il s'agissait. C'est que c'est très agréable d'aimer quelqu'un, et c'est très agréable aussi, quoi qu'on ne le dise pas, de le torturer ou de lui faire du mal. Enfin, il y a ces deux côtés chez l'homme.
Ce qui caractérise le sadomasochisme, c'est quand même le consentement entre les deux parties. Et là, manifestement, il y a quand même un consentement de haut à ce qui lui arrive. Et d'ailleurs, il est signalé constamment que René et puis Sir Stephen lui demandent son consentement et lui font remarquer qu'il suffit qu'elle dise non pour que tout s'arrête. Alors évidemment, si O était violée sans arrêt, sans qu'elle y consente, ce serait du sadisme. Mais du moment qu'il y a un consentement de O, qui est quand même souligné tout le temps, pas à chaque page, mais qui est souligné, ça relève du sadomasochisme.
Et donc, Sir Stephen va tous les jours la fouetter, tous les jours aller de plus en plus loin, de plus en plus loin dans les sévices sadomaso qu'il lui inflige. Et il va ensuite la confier à une femme qui s'appelle Anne-Marie, qui est une sorte de dominatrice lesbienne entourée que de femmes. Et alors là, elle va carrément lui percer les lèvres du sexe avec des anneaux, l'écarteler, la fouetter jusqu'au sang, enfin, lui faire subir des choses totalement délirantes.
La marquer au fer.
La marquer au fer. Des initiales de son maître, donc SS.
Cette grande dominatrice, est-ce que vous êtes identifiée à elle ?
Pas vraiment. Non. Je ne sais pas pourquoi je ne me vois pas en Anne-Marie. Pourtant, on pourrait faire le rapport, effectivement. Oui, oui. Puisque le fer rouge, je connais.
Ah, vous connaissez le fer rouge ?
Ah oui. Oui, oui.
Donc là, il ne s'agit pas de fantasmes, c'est réalisable.
Non, pas du tout, je l'ai fait, oui, bien sûr. Alors, ce n'était pas des fers rouges, c'était un objet d'une très grande beauté, fait par un joaillier, avec un manche en ivoire, et puis un pommeau avec du bois de rose, de l'argent, avec des initiales, mes initiales, en bronze. Donc on peut faire chauffer. Et d'ailleurs, j'ai raconté ça dans un de mes livres, Petit carnet perdu, où je raconte effectivement ce genre de choses.
Et quel sens ça a, cette marque ?
Appartenance, je crois, c'est très bien dit dans le livre, il me semble. Évidemment.
C'est un conte. C'est totalement fantasmatique.
Jean-Claude Silberstein.
Et puis c'était en même temps une lettre d'amour. Je pense que ça voulait dire voilà ce que j'aurais été capable de faire pour toi si tu me l'avais demandé. Mais encore une fois, sur un plan strictement fantasmatique, je ne pense pas qu'il se soit livré en couple ou même à quelque excès que ce soit.
Alors qu'est-ce qu'elle faisait avec Paulin ? On n'en sait rien. Je pense qu'ils vivaient quand même des choses assez fortes entre eux. C'est évident. Pour moi, la question ne se pose même pas qu'ils ont ce type de rapport. Car étant donné qu'elle l'a écrit pour le séduire et pour le maintenir attaché à elle, elle ne pouvait aller que dans ses fantasmes à lui. C'est-à-dire beaucoup plus loin que ce qu'ils pouvaient faire entre eux, évidemment, mais qui était sous-entendu. Si lui avait été straight, comme on dit... Je crois qu'elle lui aurait pas écrit ce genre de choses. Dans ma tête, je sais ce qu'ils ont vécu.
Ah bon ?
C'est évident. Elle ne portait peut-être pas des anneaux, mais elle avait vraisemblablement un collier de chien, qu'elle ne montrait pas. C'est un bijou assez couramment offert, utilisé. C'est amovible, ça ne fait pas mal, et c'est un signe d'appartenance.
Son amant était là, aussi proche, aussi tendrement abandonné que dans le lit de la chambre au plafond bas, où il venait dormir auprès d'elle presque chaque nuit, depuis qu'ils habitaient ensemble. C'était un grand lit à quenouilles, à l'anglaise, en acajou. Il lui dit, tout en la tenant par le collier, deux doigts glissés entre le cuir et le cou, que c'était lui qui la possédait, et jouissait d'elle à travers ceux aux mains de qui elle était remise. Elle devait leur être soumise et les accueillir avec le même respect avec lequel elle l'accueillait, comme autant d'images de lui. Il la posséderait ainsi comme un dieu possède ses créatures, dont il s'empare sous le masque d'un monstre ou d'un oiseau, de l'esprit invisible ou de l'extase.
Dans la première édition d'Histoire d'eau, se fut terminé sur une scène orgiaque, totalement onirique, où O arrive avec un espèce de grand masque de plumes, nu, tenu en laisse, et livré en pâture, en gros, hein, à tous les invités de cette orgie. Et elle va donc être violée à tour de rôle tout au long de la nuit. Et ça termine sur ce sacrifice.
Dominique Horry, enfin Pauline Réage, hein, le pseudonyme étant Pauline Réage, a mis en mots et en images un univers sexuel mortifère.
Alexandra d'Este.
Et l'héroïne poursuit en fait une quête d'ordre mystique. Elle poursuit en fait une idée absolutiste de l'amour Et elle utilise en quelque sorte les fantasmes masculins pour obtenir l'amour. L'amour avec un grand A. En se donnant sexuellement plus, elle pense qu'elle obtiendra amoureusement davantage. Et donc elle se fait volontairement objet et choisit la soumission. Elle se fait volontairement victime. En cela, on peut dire que c'est un contre-exemple absolu en matière d'émancipation des femmes. Constitue, à mon sens, une anti-héroïne. On ne peut pas, lorsqu'on est féministe, aller dans le sens de ces représentations-là. Mais en revanche, il faut savoir que le geste d'écriture est libérateur. Puisqu'on est dans un contexte où finalement le désir féminin, il est nié en tant que tel. Si l'on prend par exemple Julien Binda, André-Pierre de Mandiargues, Georges Bataille, Claude Elsen, tous ces hommes, tous ces écrivains, le désir féminin, il naît par contagion. Et lorsqu'il s'exprime, il est soit le fait d'une nymphomane, soit le fait d'une prostituée. Il est considéré comme une réplique en mineur du désir masculin. Il n'existe pas en tant que tel. Et c'est en cela que le geste de Dominique Horry est très audacieux et il sera d'ailleurs assez mal compris par les critiques de l'époque.
Jean-Jacques Pauvert, 1990.
J'ai publié le livre avec beaucoup de soin. C'est un très beau livre, l'édition originale est un très beau livre, sur papier vergé. Il y a des exemplaires avec une vignette de belle-mère. Et je me suis dit, je tiens un succès international. J'ai fait d'ailleurs un petit prospectus où je dis que c'est un livre qui va marquer une date dans l'histoire de toutes les littératures, etc. Et j'en ai vendu 1200 la première année. C'était pas mal parce qu'aucun libraire n'en voulait. Hein. Il faut se rendre compte, d'abord, il n'y a pas eu d'article du tout. Pas un seul au départ. Au bout de quelques temps, il y a eu un petit entrefilet dans un journal qui s'appelait Dimanche Matin. Quelques mois après, il y a eu deux articles. Alors là, ce n'était pas n'importe quoi, c'était Bataille et Mandiargues. Bataille dans Critique et Mandiargues dans la Nouvelle Revue Française. Bon, personne ne lisait Critique ni la Nouvelle Revue Française. Mais enfin, ça a fait un petit peu de bruit, ça a dû m'en faire vendre 50. Et ça a été le début de la carrière d'Histoire d'eau.
Tout début 55, ils vont obtenir un prix. Le prix des deux magots décide de couronner le livre. De là, un emballement médiatique. Et donc, de là va naître ce qu'on a appelé l'affaire Histoire d'eau. Et ça va être assez compliqué parce que comme Dominique Horry n'apparaît jamais sous son nom et qu'il s'agit de toujours garder secret son identité, c'est Jean-Jacques Pauvert, l'éditeur, et Jean Paulhan, qui a écrit une préface au livre qui s'appelle « Le bonheur dans l'esclavage » qui se retrouve en première ligne. Et qui se retrouve dans le bureau des policiers pour les différents interrogatoires assez musclés qui vont avoir lieu pendant des mois.
J'étais convoqué assez souvent à la brigade mondaine. Vous savez, c'est la brigade mondaine à la préfecture de police, c'était la brigade qui était chargée des mœurs. La prostitution, la drogue, des choses comme ça. Moi, j'avais une position très simple. Je disais, écoutez, je suis éditeur, j'ai signé un contrat avec l'auteur et je ne vous dirai pas qui c'est le secret professionnel.
Évidemment, donc, tout ce qui compte de pruderie, pudibonderie est archi-contre. Il y a aussi tous ceux qui ne veulent pas croire qu'une femme donc, a pu écrire ce livre. Donc, on l'attribue à Jean Paulhan, on l'attribue à André-Pierre de Mandiargues, on l'attribue à beaucoup d'écrivains. Et le débat va être réactivé 20 ans plus tard, dans les années 70, quand l'adaptation cinématographique d'Histoire d'eau par Juste Jacquin sort au cinéma. Premier film, si je ne dis pas de bêtises, à subir le visa de censure, c'est-à-dire qu'on va créer la catégorie des films X à partir de ce film. Donc l'interdiction au moins de 18 ans. À ce moment-là, l'Express décide de faire un entretien avec Pauline Riage. Et cet entretien va déclencher l'ire d'un côté des féministes, de l'autre du Parti communiste, et encore de l'autre des catholiques. Donc c'est assez drôle de voir des gens aussi antagonistes, a priori sur le plan idéologique, se mettre d'accord pour condamner ce livre. Le Parti communiste y voit une sorte de littérature de bourgeois. Les catholiques, évidemment, sont outrés par la dimension pornographique. Et les féministes sont très choquées parce qu'elles considèrent que c'est un livre qui fait l'apologie de l'esclavage de la femme. Puisque notamment, justement, cette préface de Jean Paulhan, Le bonheur dans l'esclavage, consiste à dire que la femme n'est jamais aussi heureuse que finalement quand elle se soumet entièrement à un homme. Donc il va y avoir des sortes de happening, d'activisme dans les locaux de l'Express, des féministes vont rentrer avec de la peinture rouge et écrire JJSS sur les murs pour condamner le directeur Jean-Jacques Servan-Schreiber, à l'accuser d'être un fasciste parce qu'il fait l'apologie de l'esclavage des femmes. Donc on voit très bien que c'est effectivement un sujet qui reste très brûlant pendant longtemps et qu'une période de libération sexuelle comme les années 70 ne change rien finalement à l'aspect scandaleux d'un tel livre.
C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le mouvement de libération de la femme. Mot d'ordre central, briser, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme.
You are mine. But before you enter the world of silence, it's important to me you say two words, no more. It's the name of the person for whom I brought you here, and that you'll meet soon, I swear. Sir Stefan.
Sir Stefan.
Benoît Groult, 1975.
Je crois que ce livre a été écrit avec, par une femme sans doute, mais par une harkie, c'est-à-dire une femme qui faisait le jeu de son oppresseur. On ne sait pas encore ce qu'est la sexualité féminine. C'est la panoplie du petit sadique éternel, le fouet, les chaînes, les coups. C'est d'une banalité et d'un démodé épouvantable, je trouve. C'est ça qui est terrible. Et ce qui serait neuf et excitant, c'est de voir une vraie sensualité féminine, beaucoup plus gourmande, beaucoup plus osée, beaucoup plus gaie. Ce film est d'une tristesse affreuse. C'est pompeux, c'est morne.
You are mine.
Elle ne sait faire que... Elle ne sait faire que... Attends-moi, elle ne sait faire que...
Alors, ce qui s'est passé en 75-74, c'est-à-dire 20 ans après la publication de l'Histoire d'eau, il y a le film...
Delfeuille de Thon.
Le film fait par un des pires réalisateurs du cinéma français. Je ne vais même pas dire son nom. C'est vraiment le navet intégral, un producteur qui était con comme un balai. Quoi. Tout, c'était fait par des cons pour les cons. Bon. Donc, ils sortent ce film, mais ils en font un porno soft. Et l'Express va faire sa couverture avec Histoire d'eau. C'est-à-dire avec O, l'actrice, les seins à l'air, elle avait des nichons là, qui se posaient là, elle était menottée, les bras en l'air, bon, etc. Ils ont prétendu publier Histoire d'eau en feuilleton. On est rentré là-dedans dans un machin d'hypocrisie bourgeoise pour faire du fric qui était répugnant, vraiment répugnant. Le servant Schreiber, là, le propriétaire qui avait donc décidé de publier Histoire d'eau en feuilleton, il publie, mais comme il était puritain, parce qu'il n'y a que les puritains pour faire des saloperies pareilles, les enculages pour lui c'était trop. Alors ils ont coupé tout ce qui était enculage dans Histoire d'eau, mais elle n'arrête pas de se faire enculer. Alors c'était grotesque. Ils se donnaient des airs et en réalité on était en pleine hypocrisie bourgeoise, en pleine censure. Moi je fais harakiri à l'époque. Je vois ça, je saute en l'air. Je lis les déclarations de ces dames qui prétendent libérer la femme à coups de fouet, bon, etc. Alors, je me suis dit, mon cul sur la commode. Et ça m'a donné l'idée, tiens, je vais faire mon cul sur la commode. Et j'ai pris une commode et j'ai foutu un cul dessus. Le cul, c'était le cul de haut que j'ai appelé Ophélie. Et j'ai fait une parodie sur leur farce.
Je dois dire, c'était pas mal. Je me rappelle.
C'est pas drôle, écoute. Tu me chatouilles.
Tu dis que c'est pas drôle, mais tu rigoles quand même. Hein.
Ah, tant pis pour toi, je t'en fais autant. Allez.
Arrête.
Attends. À quoi ça t'avance?
Rien, c'est bon. Hein.
Qu'est-ce qui est bon?
Mais de rigoler. C'est toujours ça.
Dans votre parodie, Delfeuille de Thon, on peut dire que vous appelez un chat, si je puis dire.
Ah ben oui, bah j'en remets, bien sûr, je rajoute. Oui.
Chez vous, on lit l'anus, le trou du cul,
oui.
Chez elle, ce sont les reins.
Chez elle, on dit les reins. On dit les reins, le ventre. Hein. Mmh. Quand elle se fait enfiler, c'est le ventre. Et quand elle se fait enculer, c'est les reins. Bon, mmh. moi, j'appelle les choses par leur nom. Oui. Bon. Mais Gainsbourg, là, quand il dit « je vais, je viens » entre tes reins, c'est le langage d'Histoire-d'eau. C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil à l'époque aux gens qui ont lu Histoire-d'eau. Mmh. Hein. Parce qu'elle a inventé cette expression, Dominique Horry. Quelqu'un qui n'y lirait, que c'est le cochon entre guillemets, quoi, sans voir les qualités d'écriture, c'est vraiment dommage, quoi. C'est qui lise les nuances de je sais pas quoi, de Gray, là. Bon, c'est un bon livre.
Mais le rectangle blanc, hein.
C'est un livre bien écrit. Oui, c'est bien écrit parce que l'histoire se lit. Bon, c'est un style soutenu et elle avait le souci de la langue.
Et d'ailleurs, c'est très décent dans la façon dont c'est raconté.
Vous trouvez ?
Ah oui. Ah oui. Il y a toujours des périphrases pour parler du sexe féminin, pour parler de la sodomie. Il lui prit le ventre, ou il prit sa toison, ou des choses comme ça. Je crois que c'est Paulhan qui parle de la décence. Même s'il se passe des choses violentes, c'est décrit avec beaucoup de réserve et de retenue quand même.
J'ai toujours pensé que l'impudeur est une chose qui se manifeste dans l'amour et se manifeste dans la prière. Il n'y a rien de plus impudique que la prière. C'est la même chose. C'est sortir soi-même tout entier, se mettre à la merci de quelqu'un d'autre.
Chaque jour, et pour ainsi dire rituellement sali de salive et de sperme, de sueur mêlée à sa propre sueur, elle se sentait le réceptacle d'impureté, l'égout dont parle l'écriture. Et cependant, les parties de son corps les plus constamment offensées, devenues plus sensibles, lui paraissaient en même temps devenues plus belles et comme ennoblies. Qu'à être prostituée, elle dut gagner en dignité étonnée. C'est pourtant de dignité qu'il s'agissait. Elle en était éclairée comme par le dedans. Et l'on voyait en sa démarche le calme, sur son visage la sérénité et l'imperceptible sourire intérieur qu'on devine aux yeux des recluses.
C'est vrai qu'il y a une voix dans ce récit qui nous capte. Il y a une beauté littéraire de ce récit, qu'on est envoûté au plan littéraire. Il y a de longues phrases qui sont comme des chaînes autour du désir du lecteur qui nous amènent à aller jusqu'au bout de ce récit.
C'est un des rares textes érotiques qui soit aussi bien écrit et dont l'écriture se maintient à la conscience des lecteurs, quelle que soit la période, c'est pas daté à cause de ça. Comme les grands poètes mystiques, on est toujours en train de naviguer entre l'érotisme le plus cru, le plus violent, le plus dur à lire, et la mystique qui rend l'écriture et le projet littéraire vraiment unique, qui défie complètement le temps.
Ce que j'aurais peut-être cherché, ce que cette fille cherche peut-être, c'est une destruction. C'est une destruction avec la joie de la destruction. C'est ce que vous avez dans une vie consacrée aux sévices ou aux duretés de la vie du cloître.
C'est un acte de liberté. Elle le choisit d'abord.
Angie David.
Personne ne lui impose en réalité. Elle le fait tout à fait volontairement, consciemment. C'est en ça que c'est très proche de la dimension mystique, puisque des gens comme Fénelon, Guyon étaient quand même des hérétiques et des révolutionnaires en fait, hein, étaient pourchassés par l'Église contre le dogme. Dans cette idée qu'on peut aller jusqu'au bout de son abnégation physique et morale, en fait, on acquiert au bout de ce processus une forme de liberté absolue.
J'ai vécu avec Jean Poulenc 10, 11 ans, je ne me souviens plus. Ça a été les dernières années où je me suis sentie vivante. Après ça, j'ai tout arrêté.
Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand elle s'est coupée les cheveux. Elle a longtemps porté un très beau chignon. Elle avait de beaux cheveux blonds. Et puis, une quinzaine d'années plus tard, elle s'est coupée les cheveux et elle s'est délibérément transformée en vieille dame. Je garde un peu d'elle l'image d'une nonne, surtout à la fin de sa vie.
Nonne, mais pour quel dieu ?
À commencer par Poulenc. Je crois que Poulenc a été une sorte de dieu pour elle. C'est pour ça qu'il s'appelait mon roi, ma reine.
Après la mort de Jean Poulenc en 1968, c'est vrai que les choses semblent s'arrêter pour elle. Donc Dominique Horry va finir sa vie seule, très seule. Elle va vivre à Boissy, dans cette maison qu'elle s'est achetée. C'est une maison de campagne en Île-de-France. Qu'elle s'est achetée avec les droits d'auteur d'Histoire d'eau, et dans laquelle Poulenc est pratiquement a fini ses jours. Et donc, elle vit dans ses souvenirs, dans ses vieux papiers.
La dernière fois que j'ai vu Dominique Horry, ça a été pour moi un moment assez impressionnant. Bon, elle était très maigre, elle ne mangeait plus depuis des mois, et elle était alitée, elle a semblé vaguement nous reconnaître, et... On était là à parler autour de son lit, à raconter des choses et d'autres, histoire de donner un peu de sens à notre visite. Et tout d'un coup, elle nous a interrompus, elle s'est dressée sur son lit et elle a dit « Et que devient la littérature ?» Moi, j'étais absolument saisie d'étonnement devant cette femme qui, dans un éclair de conscience, revient à sa passion suprême, la littérature.
Et c'est vrai qu'elle garde sur elle... deux bijoux que Jean Poulenc lui a offerts, une bague en or surplombée d'un scarabée et un bracelet qu'il avait fait faire sur mesure, sans fermoir, donc elle ne pouvait pas ôter, qui était une belle allégorie de ce fameux bonheur dans l'esclavage, puisqu'on peut y voir vraiment une sorte de... Ça ressemble à un bijou d'esclave avec lequel on aurait pu l'enchaîner.
Dominique Horry, Histoire d'eau. Avec Angie David, Alexandra Destet, Delphaye de Thon, Claire Poulenc, Catherine Robbe-Grillet et Jean-Claude Zilberstein. Texte lu par Ariane Zimra. Prise de son Mathieu Tourant, Adrien Gaza et Jean-Marie Porchet. Mixage Claude Niort. Une émission de Christine Le Cerf, réalisée par Christine Diger.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poinsignon et consacrée aujourd'hui à Dominique Horry. Vos commentaires, cruels ou tendres, sont les bienvenus sur la page de notre émission sur franceculture.fr où vous pourrez également vous enivrer d'épatants compléments et bien sûr podcaster et réécouter ce documentaire par tous les temps. La semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, Jimi Hendrix.